voix nue. Toute cette semaine, Thomas Baumgartner rencontre Barbet Schroeder. Ce soir, le réel, un moteur.
Bonsoir Barbet Schroeder.
Bonsoir.
On ne dit pas Barbette, hein, on dit Barbet.
Oui, ben oui.
Malgré
comme Barbet de Jouy.
Je voudrais qu'on commence cette nouvelle rencontre avec une sorte de parallèle entre différents films, des différents films très différents, mais j'ai l'impression qu'il y a une scène, au moins dans trois films, qui apparaît, malgré la différence entre les films, dans Maîtresse, par exemple, dans ce film
oui.
où vous avez finalement appris à la France entière ce que c'était que le sadomasochisme.
Oui, à l'époque, c'est vrai que il n'y avait pas grand-chose, oui.
Je crois que c'est 76, c'est avec Gérard Depardieu
oui.
et Bulogier.
Oui.
Gérard Depardieu découvre lui-même ce que c'est que le sadomasochisme,
absolument,
la Maîtresse oui. étant Bulogier. Et donc, il entre dans le lieu où se passent les séances de sadomasochisme. Dans Barfly, donc, autre moment, 87, Mickey Rourke, qui joue ce double de Charles Bukowski, on en a parlé hier, entend des cris chez ses voisins de palier, il ouvre la porte, et puis en fait, c'est, comme dit le voisin, ma femme aime ça, voilà, les
oui,
cris de la
oui.
femme.
Bon,
c'est... Alors là, ce qui se passe en plus, c'est qu'il y a un coup de couteau qui est donné par Mickey Rourke. Et puis, 2008, le film Inju, que vous avez tourné au Japon avec Benoît Magimel. Benoît Magimel découvre aussi une scène de sadomasochisme entre la geisha et un client. Voilà. Et il y a un vrai parallèle entre ces trois scènes, dans trois films qui sont très différents
oui.
les uns des autres, et de trois époques différentes. C'est quoi
alors,
cette scène-là ?
Alors, celle de Barfly, je n'y suis absolument pour rien. C'est vraiment... Bukowski qui s'est amusé à faire des dialogues qu'il mettait de temps en temps sur ses voisins et leurs disputes et ça l'amusait de faire ça, donc je l'ai mis dans le film et évidemment on a rajouté une scène où ça devenait ça, où on voyait les gens qui criaient normalement qu'on entendait crier mais ça je crois que c'est complètement Bukowski par contre ce qui est intéressant dans Inju, c'est que Benoît Magimel est évidemment complètement fasciné par cette geisha et il en est un peu amoureux et il pense que elle a un problème terrible avec ce méchant et que là il voit une scène en croyant que c'est vrai, en croyant qu'elle a besoin d'être sauvé mmh. et comme elle lui demande de l'aide, il tire et il tue et il fait une erreur fatale
aussi, ouais.
de croire que c'était vrai alors que comme l'avait dit Lacan quand il a vu Maîtresse, il m'a dit mais évidemment c'est du chiquet, c'est tout ce sadomasochisme, c'est du chiquet. Je dis ben oui c'est un des secrets de cette chose là, c'est que c'est du chiquet, c'est de la on prétend quelque chose. C'est de la dramaturgie, c'est du cinéma, c'est du théâtre, c'est de l'opéra, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas forcément la vraie douleur telle qu'elle est expérimentée pendant la guerre ou dans une situation terrible. Donc c'est un peu cette idée-là que les gens ont du mal à comprendre et qui crée des situations un peu comiques. Et c'est ce dont je suis assez content dans Maîtresse, et Bukowski, ça l'amusait aussi, il disait, tu as trouvé un espèce d'humour étrange pour raconter cette histoire de Maîtresse, il y a un humour étrange, et il aimait cet humour étrange, et il trouvait ça tellement étrange qu'il n'était pas complètement sûr que ça venait de moi et que c'est parce que c'était pas quelque chose que j'avais consciemment amené. Et en fait, oui, je l'avais quand même consciemment amené parce que justement, c'était encore un de ces sujets impossibles comme le jeu, comme la drogue, où il fallait arriver à faire passer quelque chose qui était pas cinématographique dans la mesure où les spectateurs avaient beaucoup de mal à s'identifier avec des situations comme ça et au contraire ont tendance à rire. Ça, si on rate ces scènes-là au cinéma, on a des rires terribles qui tuent le film. Et donc, d'ailleurs, je suis pas sûr si dans Inju, il y a pas eu un tout petit moment dans cette scène-là où il y a un mauvais rire et je voulais même couper une image, c'était rien du tout. Quelquefois, ça dépend de rien. Mm-hmm. Quelquefois, il faut couper un tout petit quelque chose.
C'est une question de rythme, là, souvent, oui. Non?
Il y a quelquefois, c'est une question de signification et de choses qui fait rire ou pas. Donc, c'est pour ça que la comédie est l'art ultime au cinéma de la mise en scène. C'est parce que là, il y a vraiment le timing qui joue complètement. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que je suis jamais arrivé à faire complètement. Mais c'est sûr que dans Barfly, même dans Single White Female, la jeune fille cherche appartement, il y a des scènes qui sont un peu cocasses, un peu drôles. Il y a une qui est une vraie comédie, une comédie de mœurs, c'est l'affaire Von Bülow. Et donc j'ai toujours rêvé de trouver une comédie complètement originale, complètement étrange. Mais qui fasse rire, pas une comédie qui est intitulée comédie et où les gens en rient pas. Et pas non plus un film noir, entre guillemets, une comédie noire où on l'appelle noir parce que les gens en rient pas. Non, moi je voulais faire quelque chose où les gens rient. Mais bon, ça reste quelque chose qui est une ambition cachée dans beaucoup de mes films. Oui.
Il y a effectivement dans Maîtresse une légèreté qui a amené Barbet Schroeder par Depardieu,
oui.
Qui à la fois est dans une forme de naïveté dans son personnage, mais apporte, enfin, il y a une chose, je crois, qui vous importe énormément, c'est la présence chez les comédiens. Là, c'est la présence de ce Depardieu de 1976 qui est assez incroyable.
Bien sûr, oui. Il était complètement extraordinaire, et pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands comédien que nous ayons. Il peut être à Grozny, il peut être avec Poutine, peu importe, c'est quand même un génie. Hein. Je veux dire, si on voit la performance qu'il a donnée sur le film dans le désert, là, le comment ça s'appelle,
je sais le plus. Film de Guillaume Niclou,
oui,
avec
c'est
Isabelle
ça,
Huppert.
Oui. Ouais. Là, je dois dire qu'il a une présence, on ne peut pas dire que c'est de la performance, il est extraordinaire, il est complètement génial. Oui.
Et dans cette scène d'ouverture, dans la scène d'ouverture de Maîtresse, qui se passe gare d'Austerlitz, je crois qu'à part un passage de mort, c'est le seul film que vous ayez tourné à Paris.
Oui, exact, et qui aurait pu se tourner absolument n'importe où.
Il y a un effet de naturel et de réel dans cette scène-là. Il arrive, il sort du train, il descend du train, il prend sa mobylette, il va dans un bistrot, pas loin. Et ben justement, je voulais parler un peu de ce rapport au réel, à la réalité. J'ai l'impression que le réel, l'histoire vraie, entre guillemets, c'est au minimum, dans votre travail, un point de départ d'à peu près tous vos films.
Oui, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas inventer des histoires qui n'ont pas une base dans la réalité. Je pars toujours de personnages vrais, très souvent. Bien sûr, il y a tout un travail de dramaturgie qui se fait après, mais quand même, je pars toujours de ça. Et puis aussi, ça m'avait beaucoup impressionné de lire que Hitchcock, même dans un film vraiment pas tellement documentaire comme Psycho, il avait demandé à son assistant de faire l'itinéraire entre Phoenix et là où il pensait que se trouvait la maison, et de faire des photos tous les 500 mètres de la route pour qu'il voit un petit peu qu'est-ce que c'est l'itinéraire que fait la route. Donc il avait besoin d'ancrer dans une réalité cette histoire. Et ça, c'est un besoin qui est, à mon avis, il n'y a pas de bon film qui n'essaye pas de s'ancrer dans une réalité, qui ne font pas ce travail-là. Et donc, c'est un travail un peu documentaire. Et bien sûr, quand je fais des documentaires, je m'amuse à faire le contraire, c'est-à-dire à chercher tous les éléments dramatiques qui normalement feraient partie d'un film de fiction. Mais ce travail vraiment de recherche est très important. Oui.
Ouais, je crois que même que, alors on a quelques DVD là devant nous, dans Kiss of Death, qui est un film donc là, américain, un scénario de Richard Price, avec un certain casting, puisqu'il y a Nicolas Cage, il y a Samuel Jackson, David Caruso, il y a Helen Hunt.
C'est un des castings les plus époustouflants que j'ai fait en Amérique. Il n'y a pas un acteur qui ne soit pas un acteur plus qu'exceptionnel, et il y en a 5 ou 6, donc c'est vraiment incroyable.
Il y a aussi Stanley Tucci et Ving Rhames. Et pour préparer ce film, vous avez habité dans le Queens. C'est-à-dire qui est le lieu où se passe.
J'ai essayé de l'ancrer dans Queens. Tout le monde connaît Brooklyn, tout le monde connaît Bronx. Parce que ce que j'ai fait quand j'étais à New York, j'ai fait la même chose que j'ai fait à Paris quand j'avais 11-12 ans. C'est-à-dire que tous les week-ends, j'allais explorer. Tous les banlieues, c'est-à-dire que le Bronx, Queens, tout ça, j'ai exploré rue par rue, en allant en métro, en louant des voitures, etc. Donc là, Queens, je connaissais par cœur, comme peu de New Yorkais connaissent, puisque personne prend le métro pour aller là-bas et faire systématiquement une rue après l'autre, c'est un peu fou. Mais, et là, au risque au contraire d'avoir pas mal de surprises. Et donc, j'étais très, très intéressé de ce quartier Queens, et il se trouvait que le générique est tourné en Queens, et que même l'histoire se passait là-bas, parce qu'on se basait. C'est un film qui est basé sur un film qui est, à mon avis, pas très bon. Sans ça, j'aurais pas fait de remake, puisqu'il est pas très bon, parce que c'est une apologie de la délation au moment où il y avait la commission McCarthy, donc c'est pas très net. Price, il a vraiment, comme il connaissait beaucoup d'éléments, de gens de la police, de gens du milieu, etc., il l'a situé aujourd'hui dans New York, et je l'ai poussé un peu plus vers Queens, mais c'était dès le départ de cet ordre-là, oui, c'était basé sur des choses vraies. C'est-à-dire que quand, par exemple, Nicolas Cage revêt un espèce d'imperméable pour taper sur quelqu'un et le sang va gicler, c'est pas un truc qui était inventé pour le film. Il y avait un type dont c'était la spécialité de faire ça, et tout ça, c'est vrai. Non, mais il y a eu encore beaucoup plus de coïncidences avec la réalité de ce qu'on décrivait. C'était extraordinaire. L'endroit où il saute à la corde, Nicolas Cage, ça se trouvait être, on a découvert après, que ça se trouvait être la propriété d'un des types qui contrôlait les endroits où il y avait les voitures qu'on pouvait, des pièces de voitures qui étaient trafiquées, etc.
Sur la question du réel, justement, donc effectivement, vous l'avez dit, vous êtes auteur de plusieurs documentaires, Werner Schroeder. Il y a eu des documentaires de courts-métrages, non?
Ça, c'était des courts-métrages de travail, c'était des repérages, ça c'est pas...
Oui, c'était des repérages pour la vallée en Nouvelle-Guinée, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'était des repérages, et comme l'image était tellement extraordinaire, l'image de Nestor Almendros, j'ai trouvé que c'était dommage de pas les... Mais en fait, l'image de la vallée est extraordinaire elle aussi, et c'est ça qui compte. C'était des choses de travail, de préparation pour la vallée. C'était des esquisses.
D'ailleurs, dans la vallée, il y a des moments de croisement entre le propos documentaire et la fiction elle-même, voilà, dans cette écriture. Mais le premier grand documentaire qu'on peut considérer comme tel que vous signez, c'est autour de Idi Amin Dada,
oui.
Ce dictateur ougandais qu'on soupçonnait de cannibalisme, un des plus grands dictateurs du moment. Et vous? Alors, on parlait d'aller dans la gueule du loup quand il s'agit d'aller faire du cinéma aux États-Unis en contrôlant un peu le système. Là, vous allez dans la gueule du loup, véritablement, de ce grand dictateur, en lui donnant presque les manettes, en tout cas, dans la manière de l'approcher.
Absolument. Oui, absolument. Oui, c'était un film... donc, c'était un portrait d'un chef d'État, et je voulais que ce soit un autoportrait, voilà, c'est ça. Tout simplement,
c'est
en rajoutant le autoportrait qu'il y a eu le secret du film, oui.
Oui, parce que, d'ailleurs, on dit que ça peut être une des influences pour la série Striptease. Vous intervenez, série documentaire de télévision belge et puis française, vous n'intervenez pas, vous êtes là, mais vous le laissez parler. C'est lui qui dirige, c'est lui qui vous montre.
Oui, vous avez moins qu'il encourage. Hein,
oui, un petit peu.
Parce que, par exemple, la scène des ministres... J'ai beaucoup insisté. J'ai dû insister plusieurs fois et j'ai dit, mais vous savez, c'est quand même... Les gens vont se demander, vont dire, vous êtes un dictateur. Si on organise un conseil des ministres, on voit que vous avez quand même des gens qui prennent des décisions avec vous. Alors, bon, d'accord, bon, alors, on va en faire un, ok, finalement. Et d'ailleurs, il l'annonce au début, il dit, c'est à cause de la télévision qu'on fait ça. Et ça devient une des scènes les plus révélatrices et les plus terribles du film. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de conseil, que c'est lui qui donne des ordres, etc.
Un ministre meurt d'ailleurs pendant le tournage, non, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que, oui, 15 jours, le tournage, il est... Non, le tournage a duré 15 jours et il est mort juste après qu'on soit parti, oui.
Vous dites que c'est un monstre complexe et que c'est ça qui vous intéressait.
Oui, oui. Sa complexité, il y a une petite chose dans le film qui fait que je me lasse pas de le regarder. D'abord, c'est le seul de mes films que je me lasse pas de regarder. Et je me lasse pas de le regarder parce que je me pose à chaque fois la même question. Je dis, est-ce qu'il y a une part de lui qui est en train de nous faire marcher en nous faisant des blagues anticoloniales ? C'est-à-dire que l'histoire de nourrir les Anglais morts de faim, est-ce que vraiment c'est un truc auquel il croit que les Anglais sont morts de faim, ou est-ce qu'il dit on va les embêter, on va leur faire une blague, comme il a fait une blague en se faisant porter sur des chaises à porteurs que je n'ai pas pu filmer, c'est la chose qui manquait, parce qu'autrement c'était devenu répétitif, c'est pas la peine, je reste plus longtemps, j'avais tout le temps la même chose, des défilés, des discours, des gens. Mais par contre j'ai raté un événement qui existe en photo, où ils portaient des blancs sur des chaises à porteurs pour arriver à une conférence, et là le gag était évident, et c'était vrai, ils portaient des british ou des blancs, ou des... Ouais. Bon, alors... Ma question, elle est la suivante, et j'ai toujours pas trouvé de réponse, c'est que quand il est au bord de la piscine, un petit peu après avoir fait le gag d'avoir fait la compétition où il prouve qu'il peut gagner contre tout le monde, il est là et il est profondément troublé et inquiet et préoccupé par cette nourriture qui est en train de pourrir. Il dit, c'est dans des hangars, c'est en train de pourrir, ça m'ennuie beaucoup, parce que j'ai demandé plusieurs fois aux Anglais de venir les chercher, et je suis désolé, vraiment, ça m'embête. Et là, je le crois. Je le crois, et je crois qu'il est vraiment embêté. Alors donc, si ça c'est vrai, comment est-ce que ça peut être un coup organisé pour... peut-être c'est les deux. Alors comment est-ce que c'est les deux ? Et voilà, c'est ça la grande question, et c'est ça qui fait le jus du film, enfin le goût, la spécialité du film. C'est sûr que si on avait eu Bokassa, par exemple, ça aurait été beaucoup moins drôle, et je crois beaucoup plus sinistre. Je crois qu'il y avait une espèce de bonne humeur et de charme chez lui qui faisait que c'était d'autant plus inquiétant.
Oui, puis il est content d'être à l'image. Enfin, il sourit, voilà. Enfin voilà.
Il y a une innocence. Il y a une innocence apparente, et je crois quand même il y a une espèce d'innocence terrifiante, quoi.
Oui, une innocence d'un dictateur qui, quand le film sort, exige des coupes. Et prend même plus d'une centaine de
oui, d'otages français. Non, tous les résidents français d'Ouganda se sont retrouvés dans un hôtel avec l'armée autour, et il leur a donné mon numéro de téléphone en disant « Appelez ce monsieur, il peut arranger les choses ». Parce que, si vous voulez, moi je bénéficiais du droit de montage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en France, obliger quelqu'un à faire une coupe dans un film. C'est-à-dire que j'ai fait la coupe parce que j'ai été menacé par une prise d'otage, et j'ai fait cette coupe contraint. Mais il n'y avait pas d'autre moyen de me contraindre. Alors qu'en Amérique, vous signez un papier quand vous faites un film, comme quoi ce film... L'auteur de ce film, c'est la compagnie. Ça peut être. J'ai fait des films dont Fox était l'auteur, un autre film où c'était Disney qui était l'auteur. Chaque fois, on doit reconnaître par écrit que l'auteur est ça. Donc, ils ont le droit, in fine, à couper dans le film. Moi, j'avais en plus une clause qui contredisait ça, qui me garantissait que j'avais le montage final. Alors, donc voilà ça. Alors après, on rentre dans un champ de bataille. Si jamais on veut s'amuser à aller à rentrer dans la bataille, ça devient très, très compliqué, et ça devient très terrible. Mais à la base, il y a quand même l'idée qu'en France, un auteur, on ne peut pas le forcer à couper. Et que là, il a trouvé le moyen de me faire couper.
Ouais, enfin, de me faire couper, la version qu'on peut voir aujourd'hui et qu'on trouve en DVD, c'est la vôtre quand même.
Ça y est, non, mais j'ai coupé le temps qu'il reste au pouvoir. Dès qu'il a quitté le pouvoir, on s'est précipité au laboratoire pour recoller les choses qui avaient été enlevées. Et c'était pas grand chose. C'était vraiment pas grand chose. Et c'est ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait une phrase un peu lourde, un peu. Hein, je voulais éviter l'exploitation raciste du film, en disant la dernière phrase, c'était n'oubliez pas qu'après un siècle de colonisation, n'oublions pas qu'après un siècle de colonisation, c'est en partie une image déformée de nous-mêmes que Amin Dada nous renvoie. Mmh. Bon, c'était un peu lourd comme explication et c'était mis à la fin. Et bon, je crois que le film peut s'en passer, mais voilà, c'était cette phrase-là. Qui vraiment, lui, ça lui plaisait pas du tout. Il dit, comment moi, je suis une image de vous-même, je suis une image d'un leader révolutionnaire de la Nouvelle-Afrique, comment vous pouvez, alors couper ça, et puis couper aussi évidemment les mentions de ce ministre qu'il menace au cours du Conseil des ministres et qui s'est retrouvé au crocodile. Oui.
Barbet Schroeder, il y a parmi les producteurs du film annoncé au départ, il y a Jean-Pierre Rassam. Oui. Qui est aussi producteur de Maîtresse. Oui. Aujourd'hui, on a l'image de Jean-Pierre Rassam comme d'un producteur flamboyant, on va dire. qui brûlait aussi sa vie par les deux bouts. C'était quoi votre lien avec Jean-Pierre Rassam? Est-ce que vous pouvez nous parler de lui?
C'est une longue histoire, parce qu'il est venu me voir tout à fait au début, quand j'avais fait La Collectionneuse. Il voulait savoir comment ça fonctionnait. Il sortait de Sciences Po et on est devenus très amis. Et lui est devenu tout à fait fanatique de toutes mes idées sur la production et sur... on partageait beaucoup de choses. Donc on a continué de se voir. Voilà, il était très très extrême, et quand il m'a dit tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire le portrait d'un chef d'État, parce que il faisait une série de télévision, et j'ai dit, moi il y en a qu'un qui m'intéresse, c'est celui qui est la caricature de tous les autres, c'est Amin Dada. Et une semaine après, je me retrouvais en Ouganda avec Nestor Almendros, et comme on savait pas si on allait réussir à faire le film qu'on voulait, je me suis retrouvé avec lui et l'ingénieur du son, et pas d'assistant pour recharger la caméra. Donc, pendant les premiers tournages, le pauvre Nestor, par 36 degrés de chaleur, chaque fois on était obligé de s'arrêter et de recharger la caméra pour continuer, parce qu'on n'avait pas d'assistant pour nous aider. Et évidemment, ça a été corrigé. Dès qu'on a vu que ça fonctionnait, c'était ça.
Puisqu'on continue à parler de la question du réel, un autre grand documentaire que vous avez signé, c'est L'avocat de la terreur, autour de Jacques Vergès. Est-ce qu'on peut dire que là, évidemment, deux personnages qui n'ont rien à voir, Idi Amin Dada et Jacques Vergès, mais en termes de méthode documentaire, c'est la même approche?
Absolument, sauf que j'avais affaire à quelqu'un de beaucoup plus dangereux, entre guillemets, avec Vergès, parce que c'était quelqu'un qui était intellectuellement diabolique, et donc c'était très difficile de lui faire dire quoi que ce soit, et c'était pas simple, c'était un vrai challenge.
Alors comment vous avez relevé ce challenge?
La même chose, en parlant et en appréciant ce qu'il disait. C'est vrai que j'appréciais beaucoup les choses qu'il disait en elles-mêmes, mais après j'ai essayé de les mettre en perspective. C'était ça mon travail.
Apprécier dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire, apprécier les choses qu'il disait?
Apprécier son intelligence, sa brillance, et puis apprécier aussi la provocation, les provocations qu'il y avait dedans. Donc là, quand il faisait des provocations comme ça, il voyait que je riais, il voyait que je souriais, que je... Donc il se disait, il est d'accord, quoi. Et d'ailleurs, c'était pareil avec Amin Dada. J'étais toujours là en train de réagir positivement à ce qu'il disait, parce que quand c'était des choses insensées, je souriais ou je riais, et donc lui, il riait avec moi, et ça créait toute une atmosphère, quoi.
Mais ce qui vous plaît dans ce genre de figure, c'est qu'on est en pleine zone grise, en fait, c'est ça ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'il faut se forcer à voir le mal et voir qu'est-ce que c'est son visage, quel est le visage humain du mal, qu'il y a du mal en chacun de nous, et comment ça se passe. C'est quand même un problème dramatique, tragique pour l'humain. Et là, on vient de découvrir que il y a 7000 ans, il y avait des massacres et des tortures, et on a maintenant la preuve. Donc on voit que ça remonte pas, que l'humanité n'était jamais innocente, et que c'était toujours un problème, et que une des nécessités de l'art est de comprendre ces phénomènes. C'est essentiel d'essayer d'approcher ça. Alors Shakespeare l'a fait très bien, mais c'est pas une raison pour s'arrêter là.
Mais en plus, en utilisant une caméra, c'est-à-dire que oui. Finalement, vous dites non seulement faire face au mal, aller le débusquer,
mais
trouver sa forme, en fait.
Oui, absolument. Oui, trouver son langage, qu'on se rende compte que le mal peut avoir un aspect ou intelligent ou quotidien ou innocent ou enfin qu'il peut y avoir beaucoup d'aspects et que il faut pas s'arrêter aux clichés. Oui,
c'était une enquête
le mal ultime aujourd'hui c'est Assad, et je crois que je pourrais pas faire un documentaire sur lui, je pourrais pas arriver à surmonter mon dégoût, mais bien entendu qu'il y a tout un côté charmeur et simple et père de famille et tout ça qu'il faudrait montrer, mais que moi-même je suis trop écœuré et scandalisé que je pourrais pas le faire. Mais et d'ailleurs je sais pas si ça serait tellement intéressant, je crois pas que ça on imagine bien, malheureusement on imagine bien.
Mais le dégoût, vous en parlez quand vous parlez de certaines idées de Vergès, et en même temps vous admirez une forme de liberté.
C'est ça, oui. Une forme de liberté intellectuelle. Oui.
La question du mal, peut-être qu'on en reparlera demain, Barbet Schroeder.
Bon, d'accord, à demain.
À demain, merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Thomas Baumgartner avec Barbet Schroeder. À voix nue, attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Martin Guénard. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.